l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Présence midi en direct jusqu'à 13h. Et bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver en ce mardi. Mardi qui sera marqué avec dans un instant l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes. Et on peut dire que c'est un agenda chargé qui nous attend.
Ah oui, très chargé. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous savez que nous sommes le 16 septembre. Dans un mois, qu'est-ce qui se passe? Coup d'envoi.
C'est le pèlerinage de la Bigorre.
Du Pélé de la Bigorre.
Évidemment.
Plein d'infos.
Plein d'infos. Et puis on parlera également de l'événement de ce week-end. Ce sont les journées du patrimoine et le diocèse de Tarbes et Lourdes se mobilise avec énormément de propositions.
Oui, alors on ne pourra pas tout vous raconter, mais évidemment, puisque dans notre diocèse, comme dans beaucoup de diocèses, il y a énormément d'églises et de chapelles qui sont absolument remarquables et qui seront ouvertes ce week-end, on fait le focus sur 3 ou 4. Allez.
À 12h35, un coup de projecteur sur l'économie avec un spécialiste à votre micro.
Le professeur Jacques Lecacheux, professeur émérite d'économie à l'université de Pau, Pays de la Dour. Il répondra à quelques questions pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nous parlerons notamment de la grève qui est attendue ce jeudi 18 septembre. Et puis nous reviendrons sur cette note, cette mauvaise note, le mauvais bulletin scolaire qui était attribué à la France avec cette note A+ qui a été donnée par l'agence financière Fitch Ratings.
Et voilà, et puis dans cette émission, on retournera un bond en arrière. On retournera au Moyen-Âge, Lourdes au Moyen-Âge, avec Laurent de l'Office de Tourisme de Lourdes. On parlera notamment du château fort de Lourdes qui surplombe la ville et qui verrouille en quelque sorte les vallées. On en parlera dans cette émission aux alentours de 12h50. Voilà pour le sommaire de cette émission.
Présence à Saint-Cirq-la-Popie, 92.5.
Toutes les assurances se valent, me direz-vous?
Eh bien non!
La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif.
Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 euros à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis.
Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget.
Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Et merci d'avoir choisi Radio Présence. Radio Présence qui s'intéresse à l'actualité et à la vie dans nos diocèses. Et aujourd'hui, on s'arrête dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Bonjour Anne-Rose Jankovic.
Bonjour Gilles.
Dans un mois tout juste, c'est le pèlerinage de la Bigorre à Lourdes.
Oui, tout à fait. Le 16 octobre prochain, coup d'envoi de ce rendez-vous annuel, Pélé de la Bigorre à Lourdes. Coup d'envoi donné, comme chaque année, par les enfants, les élèves des classes de la CP au CM2 se retrouveront dans la cité mariale avec leurs enseignants, avec toutes les équipes éducatives pour découvrir le message de Lourdes et le visage de Sainte Bernadette. Ce sera une journée vraiment festive pour tous ces enfants. Et puis ensuite, eh bien, ça continue pour tous les Bigourdans.
Exactement. Quel est le programme par tranche d'âge?
Alors effectivement, vous avez raison de le dire, comme chaque année, il y a des propositions qui sont faites par tranche d'âge, mais d'abord ce qu'il faut dire, c'est que la première proposition, la plus importante, si je puis dire, c'est celle qui est faite pour les personnes malades, âgées ou en situation de handicap. Elles seront accueillies et accompagnées par l'hospitalité de Bigorre à partir du samedi 18 octobre jusqu'au mardi 21 octobre, et les hospitaliers, les brancardiers seront là pour les accompagner, mais aussi les JHO, ce sont ces lycéens qui font le choix d'être jeunes hospitaliers, c'est-à-dire de découvrir le service du frère. Ils sont aidés, guidés pour cela par les hospitaliers et hospitalières plus expérimentés. Et ces lycéens, eh bien, ils ont 4 jours pour découvrir le service du frère avec l'hospitalité de Bigorre. Voilà, donc ils font ce choix vraiment de passer leur pèlerinage au service. Et puis les autres lycéens, les lycéens qui ne se sentent pas forcément appelés à ce service-là, peuvent proposer d'autres services, notamment pour l'animation, puisque il y a aussi besoin de talents d'animateurs, notamment auprès des collégiens, les collégiens qui eux aussi ont un programme incroyable de 3 jours du samedi 18 au lundi 20 octobre, 3 jours avec des temps qui sont proposés avec tous les autres pèlerins, mais aussi des temps juste pour eux, notamment des randonnées, des jeux, des veillées festives, bien sûr, des temps de témoignage, des temps de rencontre vraiment faits pour eux, quoi.
Alors, ce pèlerinage a été pensé pour qu'il y ait des moments pour tous, hein, vraiment pour tout le monde.
Oui, alors, et c'est marrant d'utiliser ce terme, pèler pour tous, parce que dans les propositions assez spécifiques, j'ai pas mentionné, mais c'est très important, cette proposition sur 2 jours, qui s'appelle le pèler pour tous, eh bien, c'est pour ceux qui ne sont pas lycéens, pas collégiens, pas pèlerins avec l'hospitalité, mais qui souhaitent quand même se poser à Lourdes. Et on leur propose de prendre 2 jours, samedi 18 et dimanche 20 octobre, pour vraiment prendre 2 jours, se poser 2 jours à Lourdes et se faire pèlerin d'espérance. Ils auront des temps de rencontre rien que pour eux, des temps de partage également, et puis le reste du temps, ils pourront rejoindre tous les autres pèlerins. Alors, vous l'avez bien dit, Gilles, il y a des rendez-vous qui sont vraiment pour tous, gratuits, sans inscription. Ce sont les fameux rendez-vous auxquels, tout le monde peut participer. Alors, on peut venir un petit peu chaque jour. On fait son programme, et c'est très bien pour les personnes qui sont un peu loin. Ça commence le samedi 18 octobre avec une journée qui sera orchestrée, si je puis dire, avec la Fraternité Saint-Laurent de Lourdes, qui commencera à 10h avec un temps de partage de la parole de Dieu sur ce thème, l'espérance ne déçoit pas. Et puis, il y aura un pique-nique convivial et l'après-midi, des démarches de pèlerinage dans le sanctuaire ou bien le chemin du jubilé. Tout ça se fera en groupe. Hein. L'objectif, quand même, au fond, c'est toujours la rencontre. Et puis, à 16h30, donc toujours ce samedi 18 octobre, il y aura la messe d'ouverture du pèlerinage avec les pèlerins malades et les hospitaliers.
Autre temps fort, j'imagine, le dimanche avec la messe diocésaine.
Exactement. Alors, le dimanche 19 octobre, ce sera même plus que la messe diocésaine. Ce sera vraiment une journée de festival de l'espérance, un vrai festival pour être tous ensemble vraiment pleinement pèlerins de l'espérance. Ça commencera à 10h en l'église Sainte-Bernadette dans le sanctuaire avec un accueil. Et puis à 10h30, vraiment le lancement de la journée avec notre évêque, Monseigneur Mika. À midi, nous irons tous prier ensemble l'Angélus à la grotte, et puis il y aura un pique-nique festif dans la prairie. En cas de pluie, nous nous replierons dans l'église Sainte-Bernadette, et puis à 13h30, alors là c'est l'idée originale, une farandole de desserts. L'idée, c'est que chacun apporte un dessert de son coin, de la Bigorre ou de sa vallée, à partager. C'est aussi un moyen de se rencontrer. Alors, bien sûr, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'une farandole de desserts vient faire dans une journée de pèlerinage? Vous avez bien compris, Gilles, que les desserts sont une excuse pour se rencontrer, pour échanger, pour découvrir les autres personnes qui viennent des autres vallées, des autres paroisses. Nous aurons ce temps de farandole de dessert avec l'occasion de témoignages et de diverses surprises qui sont en train de s'organiser. Puis à 15h30, nous irons prier le chapelet à la grotte, et à 16h20, messe en l'église Sainte-Bernadette. La journée du dimanche 19 octobre se terminera avec la procession mariale à 21h.
Voilà pour le pèlerinage de la Bigorre. Les informations pratiques, on peut, j'imagine, les retrouver sur le site internet. Est-ce qu'il y a nécessité de s'inscrire?
Alors, il y a une nécessité de s'inscrire pour les lycéens, pour les collégiens, pour les fameux pèlerins pour tous qui veulent venir pendant 2 jours. Et puis, on n'a pas mentionné, mais vous pourrez le voir sur le site du diocèse, la journée du dimanche aussi avec ce programme pour les enfants du caté. Et eux s'inscrivent baptêmes via leurs catéchistes dans les paroisses. En tous les cas, tout cela est noté sur le site du diocèse catholique65.fr/pelledio. Et très bientôt, dans les bulletins diocésains qui vont être distribués dans vos paroisses, vous pourrez avoir toutes les informations également.
Alors, pour terminer, on redonne les dates. C'est à partir du jeudi 16 octobre, hein, 16 octobre, le week-end du 16.
Jeudi 16 octobre, coup d'envoi avec les écoles. Et puis, on se retrouve à Lourdes. Environ 5000 pèlerins de la Bigorre et des Quatre Vallées viendront à Lourdes durant 5 jours pour se faire pèlerin d'espérance à la suite de la Vierge Marie.
Voilà, à noter que ce sont les vacances scolaires. Hein. Ça tombe le week-end des vacances scolaires, premier week-end.
Exactement. Voilà. Si tu as un bon moyen de mettre les pieds dans les vacances. Voilà.
Allez, un peu plus proche de nous avec ce week-end. Ce sont les journées du patrimoine partout en France. Dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, énormément de propositions. On va commencer en prenant la direction de la Vallée d'Or, direction le petit village de Gézo qui se trouve à 820 mètres d'altitude. Et l'église de ce village est lauréate de la mission patrimoine cette année.
Exactement, vous l'avez bien dit, Gézo est vraiment un petit village dans la Vallée d'Or. Son église romane Notre-Dame et Saint-Laurent datent du XIIe siècle et elle a conservé de cette époque le chevet arrondi, voûté, en cul-de-four, ainsi que la nef rectangulaire avec le plafond qui est voûté lui aussi. Entre le XIIIe et le XVe siècle, l'église de Gézo a été décorée de peintures à la détrempe. Il en reste quelques vestiges juste derrière le retable. Au XVIe siècle, elle a été partiellement détruite suite à un incendie probablement provoqué pour désinfecter le village avec le feu suite à une épidémie de peste. Et puis, vous voyez que l'église de Gézo nous raconte beaucoup de choses. Dans le cœur toujours de cette église, le retable du style Renaissance a survécu à la contre-réforme. Il est vraiment unique dans les Hautes-Pyrénées. Il y a beaucoup d'œuvres de cette époque, mais c'est vraiment dans cette église est une des particulières. Elle est ornée de trois niches qui abritent des statues du XVe siècle et puis des panneaux peints qui représentent notamment un miracle de Saint-Jacques le Majeur, le miracle du pendu dépendu. Alors cette église de Gézo, elle est tout à fait particulière puisqu'elle est fréquentée par les pèlerins qui marchent sur les chemins de Saint-Jacques. Elle a été classée au titre des monuments historiques en 1971 et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre justement des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en 1998. Alors, au cours des dernières années, la commune de Gézo a réalisé pas mal de travaux, en tous les cas une tranche de premiers travaux assez importants, et puis elle doit continuer maintenant. Et c'est pour ça qu'elle a candidaté, qu'elle a été lauréate de la mission patrimoine cette année, en 2025. La mission patrimoine, vous savez, c'est la mission Berne, et cela va permettre à la commune de poursuivre les travaux de restauration. Alors, vous pouvez aller voir cette église de Gézo ce week-end pendant les journées du patrimoine, ce sera l'occasion de voir de vos yeux tout ce que je viens de vous dire.
Il y a encore beaucoup de choses. Vous avez donné envie, en tout cas, ça se trouve dans la Vallée d'Or, à peine un peu plus de 800 mètres d'altitude. Donc ce village de Gézo, direction l'église d'Aurignac, avec un retable qui est magnifique, vraiment à découvrir, pas loin de Bagnères de Bigorre.
Oui, c'est à 7 km de Bagnères de Bigorre. Vous pouvez visiter l'église Saint-Martin d'Aurignac avec son magnifique ensemble baroque, maître-autel, tabernacle, baldaquin. Ce sont des œuvres de la maison Ferrer, sculpteur bigourdan bien connu du XVIIIe siècle. Il y a aussi cette peinture de la voûte du chœur qui est absolument unique en Bigorre. Et puis ces tableaux de la nef qui sont des reprises de toiles de maîtres français et italiens des XVIe et XVIIIe siècles. Hôtel, tabernacle, baldaquin, tous se sont classés monuments historiques. Ce week-end, vous pourrez découvrir ou redécouvrir cette église grâce à la mobilisation de bénévoles. Qui sont là pour vous accueillir et commenter une visite. L'église sera ouverte samedi et dimanche de 15h à 18h. L'entrée est gratuite, bien sûr. Vous pouvez entreprendre une visite libre ou bien vraiment profiter de la connaissance de ces bénévoles. J'indique quand même que dans ce village d'Aurignac, c'est absolument remarquable de voir comment les habitants et notamment Monsieur Gérard Latour se mobilisent depuis des années pour entretenir, rénover cette petite église. Vraiment bravo à tous ces bénévoles.
Voilà, ce village s'appelle Aurignac, pas loin de Bagnères de Bigorre. Après Bagnères, on repart du côté de Tarbes, à côté de Tarbes, à Maumère. Alors vous avez choisi Maumère puisque c'est là où est né l'abbé Peyramale.
Exactement, vous dites presque tout ce que je voulais dire. Effectivement, Momère a cette église placée sous le patronage de Saint-Christophe. Voilà, vous pourrez y découvrir, admirer les fresques qui ont été restaurées. Et effectivement, pourquoi cette église? Eh bien, parce que elle est un petit clin d'œil historique à Lourdes, puisqu'effectivement, Momère est le village natal de l'abbé Peyramale, le curé de Lourdes, au moment des apparitions. Il y a beaucoup d'églises à voir dans les Hautes-Pyrénées, mais je voulais faire ce petit focus sur le village de Momère. Voilà, petit clin d'œil à l'histoire de Lourdes.
Après Bagnères, Tarbes, on remonte. Direction maintenant Sarriec-de-Bigorre avec vous pour ces journées du patrimoine.
Direction le Val d'Adour, à côté de Rabastens-de-Bigorre. Sarriec-Bigorre, c'est un petit village avec une église paroissiale placée sous le patronage de Notre-Dame de l'Assomption. Elle a été construite en quatre étapes, si je puis dire, quatre périodes, 14e, 15e, 17e et 18e siècle. Il y a notamment ce retable et baldaquin de la maison Ferrer, encore une fois, et cette église de Sarriac-Bigorre a été classé monument historique depuis 1952. Là encore, c'est une église que vous pourrez visiter ce week-end à l'occasion des Journées du patrimoine.
Alors c'est une sélection de lieux à visiter, mais oui, il y a évidemment beaucoup d'autres lieux. On n'a pas parlé de Saint-Savin entre autres.
Oui, Saint-Savin, je sais qu'à Bagnères-de-Bigorre aussi l'église sera ouverte. Enfin, dans énormément d'endroits, des petites villes, des petits villages, des petites chapelles seront ouvertes aussi. Vraiment, n'hésitez pas, allez-y, poussez les portes, poser des questions, c'est vraiment l'occasion. On a un patrimoine religieux absolument remarquable dans les Hautes-Pyrénées, dans toute la Bigorre, dans les quatre vallées. Profitez-en vraiment.
Voilà pour les journées du patrimoine. Et puis évidemment, ces journées sont organisées partout en France et dans toute notre région Occitanie. Pour ceux qui nous écoutent un peu loin, ils peuvent se rapprocher du site internet dédié. On poursuit l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes avec ce samedi une table ronde sur le thème de la mort.
Oui, c'est une table ronde qui est proposée par la pastorale de la santé. Alors c'est même plus qu'une table ronde, c'est vraiment toute une matinée d'échanges et de réflexions. Samedi 20 septembre de 8h45 à midi, ça se passe à la maison diocésaine à Tarbes, la maison Saint-Paul. Vous aurez l'occasion bien d'échanger avec deux invités, notamment Doris Hiver, qui est psychologue, et le frère Joël, qui est moine à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, avec donc ce thème, la mort, on en parle ou pas, et quand? Voilà, vous pourrez poser vos questions, réagir, échanger, et tout cela, et bien évidemment, nous parlera de l'espérance chrétienne. Vous pouvez vous inscrire en contactant la pastorale de la santé, le service de la pastorale de la santé du diocèse, pastosanté65@gmail.com, pastosanté65@gmail.com.
Voilà, ça c'est ce samedi. On passe maintenant au 24 et 25 septembre avec cette proposition pour goûter la parole de Dieu.
Les récitatifs bibliques, c'est une façon de recevoir, goûter, mémoriser la parole de Dieu grâce aux chants, aux gestes, au rythme, vraiment pour découvrir la parole de Dieu dans toute sa richesse, pour l'ancrer en soi de façon plus vivante et voilà, mieux prier avec la parole de Dieu. Ça se passe au presbytère de Haussin, les 24 et 25 septembre, de 9h à 17h. Ce sont deux journées pour ceux qui travaillent mais qui sont intéressés. Il y a aussi la soirée du 24 septembre, de 20h à 22h. Voilà, vous pouvez donc vous inscrire avec toutes les informations qui sont indiquées sur l'application Au Clocher et sur le site du diocèse dans la rubrique Agenda. C'est une proposition qui est ouverte vraiment à toute personne qui aime la parole de Dieu et qui désire l'approfondir ou s'en nourrir différemment en tous les cas. Donc c'est vraiment ouvert très largement.
Retour maintenant sur le week-end dernier, direction Garaison avec le 160e anniversaire du couronnement de la Vierge. Vous étiez sur place.
Ah oui, c'était un moment absolument magnifique. Chaque année, nous pouvons vivre ce pèlerinage du couronnement de la Vierge à Notre-Dame de Garaison, au sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Et effectivement, cette année, c'était tout particulier puisque c'était le 160e anniversaire. Et à cette occasion, une nouvelle couronne a été posée sur la tête de la statue, de la Pietà. Alors, quelle est cette statue? Pourquoi on a changé la couronne de la Vierge Marie? Le père Pascal Garçon, qui est religieux, père de Sainte-Croix et qui est le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison, nous raconte tout. Père Pascal Garçon, vous êtes le recteur du sanctuaire Notre-Dame de Garaison. Aujourd'hui, c'était le pèlerinage annuel, le pèlerinage du couronnement de la Vierge, le 160e. Mais un pèlerinage un peu particulier cette année, puisque on a changé, la Sainte Vierge a changé de couronne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la Sainte Vierge qui est couronnée ? Quelle est cette couronne ? Et pourquoi on fête aujourd'hui la nouvelle couronne ?
Le sanctuaire de Notre-Dame de Garaison est un sanctuaire du XVIe siècle avec non seulement trois apparitions, mais une statue qui est vénérée et une statue miraculeuse qui est devenue elle-même miraculée puisqu'en 1490, elle a été jetée dans un brasier et elle n'a pas brûlé. Donc c'est une statue en bois. Et le sanctuaire de Garaison a rayonné jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, tout son mobilier a été dispersé, dont la statue en bois de Notre-Dame de Garaison qui n'était donc plus à Garaison. En 1865, quand Monseigneur Laurence a décidé, parce qu'il voulait consacrer vraiment le diocèse de Tarbes à la Vierge Marie, il a demandé au pape de l'époque la permission de couronner ce sanctuaire de Garaison qui était multiséculaire, et le pape a accepté. Donc une couronne a été faite à Rome, mais il n'y avait plus de statue, la statue de Garaison n'était plus à Garaison. Et donc, il y a un sculpteur qui s'appelle Justin Pibou, qui a fait rapidement une statue un peu grande, en plâtre, et qui, elle, a été couronnée en tant que Notre-Dame de Garaison, mais qui n'était pas la statue historique en bois. Donc, 160 ans après, la Vierge en bois, la Vierge authentique, est revenue en 1970, au moment du renouvellement du sanctuaire par les monuments historiques, mais elle n'était pas couronnée. Et donc, il y avait bien ce pèlerinage du couronnement avec la couronne, toujours du XIXe siècle, mais on ne pouvait pas mettre sur la Pietà, car elle n'était pas dimensionnée à la Pietà. Et donc, par un concours de circonstances, cette année, c'est l'année du grand jubilé pour toute l'Église, et nous avons un jubilé au carré, puisque nous fêtions le 160e anniversaire, donc 1865-2025, du couronnement de la Vierge Marie. Alors, pourquoi en 1865 ? Parce que c'était aussi les 30 ans de la réouverture du sanctuaire après les années noires de la Révolution et de ce qui a suivi. Donc, pour Monseigneur Laurent, c'était important de dire, voilà, nous relançons l'aventure chrétienne. Et j'espère qu'après cette année de jubilé où Monseigneur a invité les catholiques du diocèse à fréquenter Pietat, à fréquenter Yas, Puellarin, Garaison et Lourdes au mois d'octobre, eh bien, je pense que ça va être aussi un bon coup, non pas comme une fois, mais un coup de grâce pour tous les chrétiens du diocèse pour reprendre le flambeau.
Alors tous les ans, moi je viens ici au pèlerinage du couronnement de la Vierge. Cette année, vous l'avez expliqué, une saveur un petit peu particulière avec ce double jubilé. Et puis des visages qui sont nouveaux, alors voilà, des gens du diocèse qui ont aussi découvert le sanctuaire de Garaison à l'occasion justement de cette année jubilaire, qui ont suivi l'invitation de l'évêque et qui sont venus début juillet pour le pèlerinage diocésain qui avait lieu ici. Enfin voilà, il y a des gens qui continuent à découvrir ce lieu et puis d'autres qui reviennent chaque année parce que ils sont touchés par une certaine grâce. Quelle grâce particulière on vient chercher ici, Père Pascal ?
La joie, la sérénité, certainement, la sérénité. Et la joie parce que l'été a commencé par ce pèlerinage diocésain le 5 et 6 juillet. Et si vous pouvez aller sur le site du diocèse, voir ce petit clip, ce petit film, où on voit que des sourires. Et pour moi, ça a été une très grande grâce de voir tous ces sourires. Et quand on connaît les gens, quand on sait leur croix, leur souffrance, leur peine, et qu'on les voit sourire, pour moi, ça a été une des grâces de Garaison et de sérénité. Et puis, il y a quelque chose d'intime. Ici, il n'y a pas de grande procession, il y a un cœur à cœur avec la Vierge Marie. C'est elle qui a choisi ce lieu. Si elle n'avait pas choisi, il n'y aurait pas de chapelle, il n'y aurait pas d'école, on ne serait pas là ce soir pour en parler, parce qu'il n'y aurait que des chants. Hein. Mais il y a une sorte d'intimité entre... Et pour moi, recteur, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas Garaison avant d'être nommé recteur, mais j'ai senti profondément la présence de la Vierge Marie ici, auprès des pèlerins, mais aussi auprès des élèves, qui, comme les jeunes d'aujourd'hui, peuvent se sourire, se moquer de ça. Mais il y a une intimité quand même entre la Vierge Marie et les élèves. Et pour moi, pour tout cela, ben, je crois que Garaison a son message du ciel pour tous.
La Vierge Marie a dit qu'ici, elle répandrait ses dons. Vous êtes témoin que vraiment, elle continue aujourd'hui, en 2025, à répandre ses dons pour les élèves, les familles, les pèlerins, les habitants du coin. Vous êtes témoin de ça en tant que recteur ?
Oui, je suis témoin. D'abord, toute personne qui vient à Garaison peut voir qu'il y a des ex-voto qui sont très récents. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui reçoivent. Et puis, j'étais indirectement témoin, mais là, ce serait trop long à raconter, d'une guérison d'un petit garçon. Donc, vous savez, comme la résurrection, il y a un avant, il y a un après. Mais au moment de la résurrection, personne n'était présent. Moi, j'ai vu ce petit enfant arrivant en fauteuil parce qu'il avait une tumeur au cerveau. Je l'ai vu repartir en courant. Et depuis, les médecins qui le suivaient ont attesté sa guérison. Et je vois la joie des parents. Je vois donc tout le monde n'a pas cette grâce de guérison. Mais je crois que Marie veut quand même insister pour nous dire qu'elle est présente et qu'elle n'oublie pas la peine des uns et des autres. Et qu'elle, comme une maman, elle fait tout pour que ses enfants repartent heureux et plein de force.
Merci beaucoup, Père Pascal. À bientôt.
Voilà pour cet entretien que vous avez enregistré donc dimanche, Anne-Rose, à l'occasion du 160e anniversaire du couronnement de la Vierge à Garaison.
Ah oui, c'était vraiment magnifique. Comme chaque année, moi j'aime beaucoup Notre-Dame de Garaison parce que comme le dit le Père Pascal Garçon, c'est vrai qu'il s'y passe quelque chose d'intime avec la Vierge Marie. Vraiment, c'est un lieu de repos. Si vous voulez voir les belles photos de cette journée et de ce couronnement de la Vierge Marie, je vous invite à aller sur le site du diocèse catholique65.fr. Vous pourrez voir comme la nouvelle couronne a été posée avec beaucoup de délicatesse sur la tête de la Vierge Marie. C'était vraiment beau à vivre et c'est beau à voir aussi en photo.
Voilà, ça se trouve entre Lannemezan et Castelnau-Magnouac.
Hein. Ah oui, alors c'est vraiment un territoire qu'on partage quand même un petit peu. C'est les Hautes-Pyrénées, attention, mais on partage quand même avec le Gers et la Haute-Garonne.
Alors, on va terminer cet agenda avec cette information qui est très importante pour le diocèse de Tarbes et Lourdes. C'est la béatification du Père Vergès, un bienheureux dans le diocèse.
Exactement, c'est vraiment une grande joie, une béatification qui aura lieu très prochainement. Il s'agit de la béatification de 50 religieux, séminaristes et laïcs qui sont morts en 1944 et 1945 en haine de la foi dans un camp de concentration. Parmi eux, le Père Pascal Vergès, qui est prêtre de notre diocèse, qui était né à Aucun, dans le Val d'Azun. Voilà, il sera béatifié avec les 49 autres le 13 décembre prochain à 14h30 lors d'une célébration à Notre-Dame de Paris par le cardinal Jean-Claude Ulrich, archevêque du Luxembourg.
Voilà cette information incroyable.
Nous allons en reparler au cours des semaines à venir, mais c'est vraiment une très grande joie. Donc le Père Pascal Vergès, bien heureux prochainement de notre diocèse.
Voilà, la date, c'est le 13 décembre, samedi 13 décembre, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio.
Oui, bien sûr.
Voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes et Lourdes, 4865.fr.
Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de choses.
Ouais, avec une très bonne nouvelle pour terminer voilà, cet agenda. La suite de cette émission, ce sera dans un instant avec vous et votre invité.
Le professeur Jacques Lecacheux. Nous allons parler d'économie.
Ce sera juste après le journal régional.
Bonjour, accident de bus hier matin à Cahors. L'accident est survenu au chemin des Durands. Un bus a percuté un arbre avant de se renverser pour une raison inconnue. Les agents de la police nationale, les sapeurs-pompiers du Lot et le SAMU se sont immédiatement rendus sur place. Ce bus transportait 40 passagers, en très grande majorité des collégiens et des lycéens. 17 personnes ont été transportées au centre hospitalier de Cahors pour des blessures légères, les plus graves étant des fractures. Les autres passagers ont été pris en charge par la cellule d'urgence médico-psychologique. Début des essais de la première rame de métro de la future ligne C à Toulouse. La première rame construite par Alstom, entièrement assemblée, débute ses essais statistiques au centre d'essais ferroviaire situé à Valenciennes. Les essais de roulage commenceront cet automne et se dérouleront jusqu'à la mi-2026. Avant la livraison des premières rames à Toulouse en 2027, cette nouvelle étape, franchie le 10 septembre dernier, permet de lancer la validation des rames du métro lors d'une série d'essais. Pour rappel, la ligne C parcourra 27 km et comprendra 21 stations. L'élection législative partielle sur la première circonscription de Tarn-et-Garonne se tiendra les 5 et 12 octobre. L'arrêté préfectoral établissant la liste des candidats et de leurs suppléants pour le premier tour des élections législatives vient d'être publié. La région Occitanie invite plus de 300 lycéens à découvrir les métiers du sport au Creps de Toulouse. Dans le cadre de la célébration du premier anniversaire des Jeux de Paris 2024, la région Occitanie organise mercredi 17 septembre une journée exceptionnelle au Creps pour faire découvrir à plus de 300 lycéens et stagiaires du Creps les métiers du sport et les nouvelles installations sportives d'excellence. Il s'agit de la deuxième étape de la tournée des rencontres régionales du sport. La tournée a débuté en mai dernier à Rodez avec des échanges autour du sport et de l'aménagement territorial ayant réuni près d'une centaine d'acteurs locaux. Le 40e pèlerinage Lourdes-Cancer-Espérance se tiendra à Lourdes à partir d'aujourd'hui et jusqu'à samedi et sera présidé par Mgr Jean-Marc Mica, évêque de Tarbes et Lourdes. En cette année du jubilé de l'espérance, le pèlerinage permet de se ressourcer, de prier et de témoigner de sa foi. Il s'adresse à tous ceux qui sont concernés par la maladie, qu'ils soient touchés personnellement ou à travers l'histoire d'un proche. Le mois de septembre est marqué chaque année par la présentation d'une nouvelle saison culturelle dans toutes les villes de France. Exemple à Millau, cette année encore la programmation sera dense puisque près de 90 représentations sont proposées au public et à tous les publics, en plateau, dans le studio, dans les communes mais aussi dans les classes. La programmation s'adresse à tous les publics. Le théâtre vous propose aussi des temps d'animation avant et après les spectacles pour échanger et se rencontrer. Être accessible, c'est aussi proposer un tarif abordable. C'est pourquoi le théâtre à Millau conserve les mêmes tarifs.
Merci Eric Leclerc, retour de l'info sur notre antenne dans une demi-heure avec l'actualité nationale et internationale. Pour cela, on se connectera avec la rédaction française de Radio Vatican, donc à Rome.
Présence à Super Bannière 94.
La suite de cette émission, c'est avec Andros Jankovic et son invité.
Bonjour professeur Jacques Lecacheux.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite d'économie à l'université de Pau et Pays de la Dour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois. Ce n'est pas la première fois que vous venez sur l'antenne de Radio Présence pour nous aider à décrypter un petit peu l'économie. Alors, on a trois sujets à voir avec vous aujourd'hui. Et on commence par cette note. C'est arrivé vendredi 12 septembre comme un mauvais bulletin de scolaire. L'agence de notation financière Fitch Ratings a dégradé la note de la France de AA- à A+. Qu'est-ce que c'est que cette note? Qui évalue notre économie? Qu'est-ce que nous dit cette note? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette note, professeur Lecacheux?
Alors, cette note, elle est donnée, donc, comme vous l'avez dit, par une agence qui est une agence américaine, qui s'appelle Fitch Rating. Et en fait, il y a un certain nombre d'agences qui sont spécialisées dans ce genre d'évaluation au niveau mondial, mais les trois principales sont Moody's, Standard & Poor's et Fitch, qui sont toutes les trois des agences américaines. Et en fait, ce qu'ils évaluent, c'est pas notre économie, c'est en fait la capacité du gouvernement français à honorer ses dettes, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc, ce qu'on évalue, en fait, c'est le gouvernement français, l'État français en tant qu'emprunteur. Et ces agences, en fait, elles ont pour fonction d'évaluer tous les emprunteurs, pas seulement les États, mais aussi les entreprises. Et elles le font en analysant leur situation financière, leurs perspectives, etc. Et elles résument leur évaluation par une note. Et ça permet à ceux qui achètent cette dette, donc les investisseurs de tous les pays du monde qui achètent des obligations françaises ou de l'État français ou de l'État américain ou d'une grande entreprise quelconque, ça permet aux investisseurs donc d'avoir en une seule note au fond un résumé des perspectives de l'emprunteur.
Donc ça ne va pas aider de potentiels emprunteurs ou de potentiels investisseurs à faire confiance en la France. Ça ne nous aide pas, cette note. Ça nous enfonce un petit peu.
Ben oui, bien sûr, puisque ça prend acte du fait, si vous voulez, que le gouvernement français a beaucoup de mal à contenir l'augmentation de la dette publique et a du mal à faire passer son budget, a du mal à réduire son déficit budgétaire. Et donc, le signal que ça envoie, c'est la situation se dégrade plutôt du point de vue financier.
Donc, il s'agit juste de donner une note à partir d'un état des lieux, mais il ne s'agit pas de donner des pistes pour nous aider.
Non, c'est-à-dire qu'en fait, l'agence en question, en fait, elle travaille en fait pour les investisseurs, pas pour le gouvernement français. Elle évalue aussi objectivement que possible. Alors, c'est jamais complètement objectif, et ces agences ont toujours un petit biais, on va dire, idéologique quand même. Mais disons que, en théorie, si vous voulez, c'est envoyer un message à ceux qui détiennent la dette publique française pour dire les perspectives sont un peu moins bonnes qu'avant. Et donc, effectivement, ça peut encourager certains détenteurs de dettes publiques à la vendre, ou bien ça peut décourager certains des acheteurs potentiels de prêter.
Évidemment.
Voilà. Mais bon, en même temps, c'est pas non plus une révélation. Généralement, quand l'agence dégrade sa note, c'est que on sait déjà depuis plusieurs mois que la situation est dégradée, etc. Donc c'est pas.
Est-ce que la France est le seul pays à avoir une note aussi catastrophique? Est-ce que cette note est aussi catastrophique que l'on dit?
Non. Non, on a encore une note meilleure ou comparable à celle de beaucoup d'autres pays. L'Espagne, l'Italie, la Grèce ont des notes à peu près similaires à celles de la France. Alors, ce qui est vrai, c'est que il y a des pays qui ont des meilleures notes, évidemment. Hein. Et nous-mêmes, la France, l'État français avait un triple A jusqu'à 2012. Hein. Donc, on a perdu beaucoup de points depuis 2012. Et aujourd'hui, il y a quand même encore 4 ou 5 pays européens qui ont ce qu'on appelle le triple A, c'est-à-dire la meilleure note de la part des agences. Il y a l'Allemagne, bien sûr, mais aussi les Pays-Bas, et enfin, il y en a quelques-uns, quoi.
C'est une note qui est réévaluée chaque année?
Alors, plusieurs fois par an, en fait, hein, je crois que c'est tous les 6 mois, plus ou moins. Hein. Mais je vous dis, chaque agence a son propre rythme et ses propres méthodes d'évaluation.
Est-ce que pour vous, en tant qu'économiste, c'est une note que vous attendez, que vous regardez de près, que vous scrutez?
Alors, en tant qu'économiste, pas tellement, parce que je vous dis, on a les mêmes informations que les agences. En tant qu'économiste, on sait ce qui se passe dans l'économie française, dans le budget de la France, etc. Mais il faut bien voir que beaucoup d'investisseurs, notamment étrangers, mais aussi des petits épargnants, etc., ne suivent pas au jour le jour les évolutions de l'économie française ou du budget français. Et pour eux, ça constitue un signal simple à suivre, si vous voulez. C'est un peu comme le Nutri-Score sur les aliments, si vous voulez. Hein.
Oui.
Ça résume en une seule lettre toutes sortes d'informations qui sont écrites en petit sur l'étiquette. Mais pour le consommateur, c'est simple, ça se voit de loin et il n'y a pas besoin de lire les étiquettes. Quoi.
Oui, donc en somme,
c'est la même chose.
Ça dit très fort et avec beaucoup de tapage ce qu'au fond tout le monde sait déjà.
Oui, c'est ça.
Allez, on passe au deuxième sujet, professeur Jacques Lecacheux. Après le 10 septembre, l'ensemble des syndicats appellent à une mobilisation massive. Hein, ce jeudi, le 18 septembre, grève, manifestation, blocage, transport, école, services publics, tous sont dans les starting blocks. Alors, on ne sait pas encore vraiment à quoi s'attendre, mais je voudrais vous demander quelles conséquences directes et concrètes ces jours de grève, ces blocages ont dans notre économie. Qu'est-ce que ça va enclencher dans notre économie?
Alors, ça constitue évidemment une perte de production, donc une perte, d'activité économique, hein, puisque non seulement les secteurs qui sont bloqués ne produisent pas ces jours-là, hein, mais en général, ça gêne aussi la production dans d'autres secteurs, bien sûr, hein, puisque si par exemple il y a une grève générale des transports, les salariés peuvent pas ou peuvent difficilement se rendre à leur travail, même ceux qui sont dans les entreprises privées, etc. Et donc ça a des conséquences en termes de baisse de production pour toute l'économie. Alors ça dépend évidemment de l'ampleur du mouvement, bien sûr, hein, mais ça va, si on se réfère à l'indicateur habituel qui est le PIB, la croissance, etc., ça fait une petite perte de croissance. Alors si c'est juste une journée, évidemment.
Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre? Une petite perte de croissance, ça veut dire quoi?
Ça veut dire, écoutez, c'est pas très compliqué, hein. On a un peu plus de 300 jours ouvrés par an. Donc si toute l'économie française est complètement bloquée pendant une journée, ça fait un peu plus que 0,2% de PIB en moins, quoi. Donc, mais il faudrait vraiment que tout soit bloqué. Or, ça n'arrive jamais quand même. Hein. Donc, c'est plutôt de l'ordre de... Quand il y a une grève très suivie, et surtout si elle dure plusieurs jours, ça va être 0,2 ou 0,3% du PIB en moins. Mais sinon, c'est quand même pas, c'est pas une perte abyssale, évidemment. Hein, parce qu'en plus, c'est très rare que tout s'arrête quand même. Hein, je veux dire, les gens continuent à manger, les boulangers continuent à faire du pain, etc., etc. Je veux dire. Mais oui, c'est quand même une perte d'activité, bien sûr.
C'est quelque chose qui vous inquiète, enfin que vous surveillez entre guillemets ces jours de blocage, de grève. Vous avez une attention particulière d'économiste.
Bah oui, on regarde ça, mais en même temps, si vous voulez, c'est pas encore une fois, si c'est une journée, c'est pas.
L'inconvénient, c'est qu'on ne sait jamais combien de temps ça va durer, ni quelle ampleur ça va. On peut pas le prévoir.
Non, exactement. Et je veux dire, des grèves, il y en a dans tous les pays du monde, etc. Donc, c'est pas non plus cette année n'est pas exceptionnelle. Je veux dire, il y a eu des grèves au moment des protestations contre la réforme des retraites, etc. Donc, pour l'instant, on peut pas dire que si c'est juste une journée, ça aura très peu d'effet, évidemment, parce qu'après, on rattrape quand même en partie.
Hier, notre nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé qu'à partir de janvier 2026, il en sera fini des privilèges accordés aux anciens ministres, chefs de gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans d'autres interviews hein, qu'on a eues au cours des mois passés, vous avez souvent expliqué que la complexité pour faire face à la dette, justement, c'était précisément de mettre en place des mesures justes, et puis justes pour tous. Est-ce que supprimer les indemnités ou les avantages à vie... ça vous semble une mesure juste? On se dit comme ça que ça ne va quand même pas changer grand-chose, mais peut-être que non. Ça va changer notre perception des choses.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est plus une mesure symbolique qui envoie un message à tous les citoyens français qui est les anciens ministres ne sont pas à l'abri des efforts qui sont demandés à tout le monde. Et donc, symboliquement, évidemment, c'est une mesure politiquement sans doute bienvenue, mais en même temps, ça va pas changer grand-chose parce que c'est quelques millions d'euros par an. C'est évidemment, ça peut paraître beaucoup, mais quand on sait que le déficit budgétaire en ce moment, c'est entre 180 et 200 milliards, vous voyez que...
Oui.
Si on économise 3 ou 4 millions, bah, c'est bien. Mais bah, c'est vraiment...
On est encore loin du compte, oui.
Oui.
Mais néanmoins, pour vous, c'est quand même une mesure juste.
Alors, juste, oui. C'est-à-dire que ça va être perçu, si vous voulez, je pense, par l'opinion, comme quelque chose, une mesure de justice, dans la mesure où on a du mal à comprendre, finalement, pourquoi... Les anciens premiers ministres ont des avantages à vie, hein, puisqu'après tout, ils ont aussi des retraites, etc., etc. Donc, il n'y a pas de raison de leur octroyer, par exemple, un chauffeur ou un secrétariat jusqu'à la fin de leur vie. Donc, oui, pour ça, je pense que ça sera perçu comme une mesure de justice.
Et pour autant, ce ne sont pas forcément non plus eux les grosses richesses qui pourraient vraiment nous aider. Quand on parle de taxer les plus riches, on ne parle pas de ces gens-là.
Ah bah non, bien sûr. Non, bien sûr. Quand on parle de taxer, par exemple, la taxe Zucman qui vise les détenteurs des patrimoines de plus de 100 millions d'euros... 100 millions d'euros, ça représente quand même pas beaucoup de personnes en France hein, qui ont plus que 100 millions d'euros. C'est peut-être 1500, 1800 personnes, pas plus. Hein. Donc, et les anciens premiers ministres n'ont aucun un patrimoine qui approche même ça, hein, même de loin.
Et c'est vrai, plus riche, pour vous, du coup, c'est juste de les taxer, d'aller chercher la solution de ce côté-là?
Ben oui.
Parce qu'on a aussi, besoin de grosses richesses pour faire tourner l'économie. Ces gens-là, ces grosses richesses font aussi travailler Du monde ?
Oui, bien sûr, mais si on raisonne comme ça, on pourrait dire aussi que sous l'Ancien Régime, on avait besoin des nobles, c'était eux qui embauchaient les autres et qui les faisaient travailler. Hein. Donc oui, bien sûr, mais en même temps, si vous voulez, il y a un constat qui est maintenant bien établi, qui est que ces très grosses fortunes paient beaucoup moins d'impôts en pourcentage de leur fortune ou de leur revenu que les classes moyennes. Hein. Et donc, l'idée, c'est simplement de rétablir de la justice et de dire, ces très grosses fortunes qui ont la possibilité d'échapper à l'impôt par toutes sortes de montages et parce qu'ils ont des conseillers, etc., eh bien, il faudrait qu'ils payent autant d'impôts que les autres. Pas plus, mais autant, au moins. Voilà. Et ça me paraît une mesure de justice, effectivement.
Voilà, eh bien nous sommes toujours donc en quête de mesures qui soient justes, efficaces, applicables et appliquées. Voilà. Donc cette économie est donc une affaire à suivre et on aura encore l'occasion de vous entendre sur notre antenne. Merci beaucoup, professeur Jacques Lecacheux. Je rappelle que vous êtes professeur émérite d'économie à l'Université Pau Pays de la Dour. Merci beaucoup pour vos réponses.
Merci.
Et merci aussi à vous, Anne-Rose Jankovic.
Radio Présence dans le Grand Toulouse. 97.9.
Eh bien voilà, un grand merci, vous étiez déjà parti.
Non, je suis là.
Je voulais quand même vous remercier, vous souhaiter un bon appétit.
Oui, merci voilà. Gilles, merci et bon appétit à tous nos auditeurs. C'était une émission bien chargée.
Et ça tombe bien parce qu'elle n'est pas finie, vous partez.
Ah ben non, parce que vous allez nous parler du château de Lourdes, encore un lieu qu'on peut visiter pendant les journées du patrimoine.
Exactement, on va retourner au Moyen-Âge avec ce château qui est sur les hauteurs sur les hauteurs de Lourdes et qui verrouille en quelque sorte les vallées. Laurent de l'Office de Tourisme viendra nous expliquer tout ça dans un instant. Vous restez avec nous ?
Allez, je reste.
À tout de suite. Donc.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller ? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
Cette lettre peut vous surprendre, mais sait-on peut-être pas? Quelques braises échappées des cendres d'un amour si loin déjà. Vous en souvenez-vous? Nous étions fous de nous, nos raisons. Tendres adolescents, j'y pense et j'y repense. Tombe mon soir et je voudrais vous revoir. Nous vivions du temps de son air arrogant comme sont les amants. Nous avions l'orgueil ordinaire. Tout nous semblait normal, nos vies seraient un bal. Les jolies danses sont rares, on l'apprend plus tard. Le temps sur nos visages a soumis tout. est un dernier long voyage, un quai de gare et l'on s'en va. Il ne faut prendre en ses bagages que ce qui vraiment compta. Et se dire merci de ses perles de vie. Il est certain.
À Belmont-sur-Rance, 93.1.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Dans cette chronique, on va retourner au Moyen-Âge grâce à Laurent de l'Office de tourisme de Lourdes. Bonjour Laurent.
Bonjour Gilles.
Pour démarrer, on va parler de cette élévation défensive naturelle qui est au centre de la ville de Lourdes. Je veux bien entendu parler du château fort.
Exactement. Donc aujourd'hui, on part sur la découverte de Lourdes au temps du Moyen-Âge, donc une période importante. Alors malheureusement, il nous reste peu de traces écrites sur tout ça, mais on sait effectivement que le château fort de Lourdes, en fait, qu'on voit, lui par contre, il est toujours là, il est mentionné à partir du 11e siècle. Alors, il y a eu des phases certainement précédentes, hein, d'un site défensif, certainement en bois, enfin voilà, pas le château qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y a pas de reste apparent à ce jour, mais il est probable qu'il y ait eu différentes époques. Donc 11e siècle, c'est surtout 12e, 13e siècle en fait qui devient vraiment un enjeu stratégique majeur pour Lourdes. Lors de la croisade contre les Albigeois par exemple, durant la guerre de Cent Ans, la ville passe de tour à tour entre domination française, anglaise, puis revient française. C'était aussi la résidence des comtes de Bigorre, même si c'est pas un château qui a été fortement habité. Hein. Mais il y a toute une histoire autour de cette partie médiévale et ce château fort.
C'est vrai qu'au gré des alliances et des conflits, ce château passe de main en main. Il a même servi pendant la Grande Guerre de prison.
Alors, il a servi de prison pendant la Grande Guerre, effectivement. Il a été aussi forteresse où des soldats ont... Enfin, c'était aussi un fort, une garnison. Donc il a eu plusieurs époques. Donc ça, c'est la pièce maîtresse qu'on peut voir sur cette partie médiévale. Après, on va trouver d'autres éléments dans Lourdes. Par exemple, si on se promène, on va trouver la fontaine aux Trois Becs, qui était la seule et unique fontaine de Lourdes à l'époque. Donc elle a été, bien sûr, rénovée à différentes reprises, notamment après la période des apparitions, je crois, de mémoire, en 1844. Ou 84 ou 83, il me semble qu'ils avaient rénové la fontaine. Mais c'est le seul lieu en fait où les gens allaient chercher de l'eau en fait avec leur seau. On retrouve en fait des parties fortifiées. Par exemple, quand on va vers le moulin de Bouly, il y a un mur en fait où on va retrouver des éléments du mur d'enceinte d'autrefois. Rue du Bourg, en fait, à la maison d'Ambarère, il y a une partie en fait architecturale qui était un début de porte en fait, où était certainement une porte médiévale installée. On retrouve bien sûr la fameuse tour de garde à vie qui est bien connue à Lourdes, donc là aussi un vestige par contre toujours existant. Donc voilà, de ci de là on peut retrouver des éléments de cette période.
Cette ville fortifiée donc avec ce château fort, et c'est vraiment un lieu stratégique, hein, ce château fort, parce qu'il verrouille en quelque sorte l'entrée des vallées qui sont autour.
Exactement, on l'appelait le verrou du Lavedan, et c'est effectivement il servait à contrôler en fait les passages naturels au niveau des Pyrénées entre la Bigorre et le Béarn. Et il y avait tout un réseau de châteaux autour, hein, puisque autour de Lourdes il y avait les baronnies, donc on avait la tour des Angles, enfin la baronnie des Angles, on avait un château en fait à Castelloubon, enfin Vallée de Castelloubon, donc Castelloubon. On en avait à Arasson là-dedans. Enfin voilà, on a plusieurs sites comme ça défensifs, puisque c'est une période en fait où les gens avaient appris à la fin de l'époque romaine avec les invasions barbares et au Moyen-Âge à se défendre de plus en plus, donc à se fortifier. On va retrouver au centre-ville effectivement la rue du Bourg, la rue du Fort, où on va avoir ces premières rues de la période médiévale où les gens ont commencé à développer en fait les habitats au pied du château. Et je l'ai dit, ce château n'était pas habité, mais par contre voilà, en cas d'attaque ils pouvaient s'y réfugier. On va retrouver la place du Champ Commun, qui est là aussi l'ancienne place du marché, donc de la foire aux bestiaux qui pouvait avoir lieu à Lourdes. Et dans les textes anciens on retrouve effectivement les droits qu'avaient les Lourdais au niveau du marché. Donc il y avait un marché toutes les quinzaines à Lourdes, je crois que c'était tous les jeudis de mémoire.
Et voilà, et ça continue encore aujourd'hui comme ça. Ce château, vous l'avez dit, qui était très peu habité, hein, vous l'avez dit, les Lourdais se réfugiaient en cas d'attaque. Autre anecdote que vous m'avez révélée hors antenne, ce sont les Romains qui se seraient arrêtés à Lourdes.
Oui, alors ça c'est autre chose que j'ai découvert, mais a priori, bon, à vérifier, mais les Romains, oui, se seraient arrêtés à Lourdes. Ça, c'est, bon, même si là encore on a peu de traces, mais il est probable qu'ils soient installés à Lourdes pendant une certaine période. Mais ils n'auraient pas été beaucoup plus loin, puisqu'à l'époque, en fait, la vallée des Gaves, en fait, était extrêmement arborée, donc il y avait une forêt assez dense, et ils auraient été assez craintifs quant à l'explorer cette vallée de par ces forêts assez denses et immenses, et de par les habitants qui étaient qui avaient l'air un peu hostiles, donc ils se seraient arrêtés à Lourdes. Donc ils avaient été à Bagnères déjà pour la partie thermale, hein, ils avaient découvert les sources d'eau chaude, donc ça avait été un endroits où ils s'étaient arrêtés, et Lourdes, certainement que ce piton rocheux les avait attirés aussi pour y positionner en fait un endroit où contrôler là aussi les vallées et surveiller.
Voilà pour un aperçu de Lourdes au Moyen-Âge avec Laurent, donc de l'Office de Tourisme de Lourdes. On aura le plaisir de se retrouver une prochaine fois pour une nouvelle chronique Balade en Pays de Lourdes. Un grand merci Laurent et à très vite.
Balade en Pays de Lourdes en partenariat avec l'Office de Tourisme de Lourdes.
Tu ma belle qu'un jour fatigué j'aille me briser la voix une dernière fois à 120 décibels contre un grand châtaignier d'amour.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
L'armée israélienne lance ses chars à l'assaut de la ville de Gaza, une nouvelle étape dans l'offensive en cours, la ville qui subissait déjà depuis des semaines.